Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear.
Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce vinyle 77, volume 4 de la série Les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, où une petite histoire du Clash, ce fabuleux combo londonien issu de la toute première révolution punk qui élevèrent ce dernier à un rang inattendu en matière de musique et un discours engagé, enragé. Nous les avons vus se former au printemps 1976 sous la houlette du ténébreux Bernie Rhodes qui, inspiré par le travail de son mentor Malcolm McLaren sur les Sex Pistols en particulier et le punk en général, décide de concurrencer ce dernier avec un nouveau groupe, ce sera The Clash. Joe Strummer a plaqué ses 101ers pour se lancer à 200% dans l'aventure Clash. Il va partager avec Mick Jones et Paul Simonon, et eux aussi à 200%. On a vu les balbutiements du punk rock dès le début de 1976 et une flopée de groupes émerger avant la fin de l'année. Malgré le fiasco de la tournée Anarchy in the UK suite à l'annulation des trois quarts des concerts, le punk a pourtant pris son essor. La presse musicale le suit. En tout cas, une partie de la presse à scandale en fait ses choux gras. Et les maisons de disques sont à l'affût. Les Damned, les Saints, les Heartbreakers sont déjà signés, les Sex Pistols aussi, mais on les remercie avec un chèque à la clé, trop de scandales. Il y a un gars de chez Polydor qui s'intéresse à Clash, c'est lui qui leur a fait enregistrer les démos de 1976. Nous sommes en 1977, année maléfique selon la religion Rastafari, en partie théorisée par Marcus Garvey, un des pères fondateurs du mouvement. Les deux sets, lorsque les deux sets se rejoignent, c'est le Clash, une chanson de culture, tout sauf une Clash, qui n'a pas échappé à Clash justement. Culture, tout sauf une Clash, 1977.
Splash. just inside of Spanish Town District Prison. And when they were about to take him out, he prophesied and said, "As I pass through this gate, no other prisoner shall enter it yet through." And so it is until now. The gate is being locked. Say what?
What a little mama is 22 seconds clock. What a little mama is 22 seconds clock.
Culture, 2-7 Clash, extrait de leur excellent album 2-7 Clash de 1977. L'année 1977 se commence par un concert pour The Clash. Ils jouent au Roxy à Londres, qui est en train de devenir l'antre du punk. Un club de 200-300 places accueillant le double les grands soirs. Ce sera le dernier concert de Rob, qui avait remplacé Terry Shams, parti pour d'autres aventures, le batteur. Le Clash joue 2-7 et il cartonne. Tiens, il y a des gens de CBS et de AR dans la salle. The Clash, What's My Name? What's My Name, The Clash, en 1977, janvier 1977, les Ramones sortent déjà leur deuxième album, Live Home. En février, c'est la sortie de l'album des Damned et celui des Australiens de The Sense qui, pour l'occasion, vont s'exiler à Londres. Une histoire d'amour, The Sense, Story of Love, extrait de leur premier album.
I'm ready. Did it all for me, but you didn't want to lose your inability. Come on, it sounds so wrong when you say it. It sounds so wrong when you say I'm not playing, you fool. But that's the story of love. What's that you say, girl? Did it all for me, but you didn't want to lose your own ability. Come on, it sounds so wrong when you say it. It sounds so wrong when you say I'm not playing, your fool. But that's the story. Yeah.
Vous êtes à l'écoute de Vinyl, c'est le vinyle numéro 1977. Et ce sont les 4 caviers de la Punkalypse, le volume 4 de la série. Two Seven Clash, 1977, l'histoire du Clash. Donc en 77, leurs petits copains commencent à tous sortir des disques et toute une nouvelle scène punk arrive à grands pas. Il faut que le Clash trouve une maison de disques. Bernie Rhodes s'en occupe, il y a Polydor qui ne demande que ça, mais Bernie a une autre idée en tête. Avec McLaren, ils ont l'idée de monter leur propre label avec Sex Pistols et Clash et de faire un deal avec une grosse boîte genre CBS. McLaren, voulant comme à son habitude tout contrôler, le projet tombe à l'eau. Mais Bernie a maintenant les connexions avec CBS et il va proposer de Clash au patron de CBS. Ainsi, le 25 janvier 1977, alors que Clash pense signer un contrat chez Polydor, il se retrouve en fait chez CBS et signe un contrat pour une avance de 100 000 livres. Somme plutôt confortable, mais par contre, les sessions studio frais de tournée sont à la charge du groupe. Donc, impressionnant, mais plutôt polichinelle comme contrat au final. Bernie et les membres du groupe vont s'octroyer un salaire de 25 livres par semaine et le groupe va fêter tout ça au cinéma devant le film La bataille de Midway. Trois jours plus tard, le 28 janvier, Clash entre en studio pour leur premier single White Riot qui sortira le 18 mars 1977 et atteindra la 38e place des charts anglais. Bon départ pour The Clash. The Clash, White Riot. Ce morceau 1977 du Clash est directement inspiré de l'épisode qu'ont vécu Joe et Paul durant les émeutes du Notting Hill Carnaval de l'été 1976. Émeute blanche n'est sûrement pas une chanson raciste, mais bien un constat sur la capacité à se révolter contre l'oppression. Les textes extraits... Les Noirs ont beaucoup de problèmes, mais n'ont pas peur de lancer une brique. Les Blancs vont à l'école où ils apprennent à être dociles. Personne ne veut aller en prison. Ainsi, Joe fait une analogie entre les problèmes rencontrés par les différentes communautés, avec peut-être à l'arrière-pensée d'une union punk rasta pour contrer le système. La face B, quant à elle, contient le titre 1977 qui remet entre autres en question les stars du passé et le statut de star. 1977, pas d'Elvis, pas de Beatles, pas de Rolling Stone. Mais la chanson 1977 mentionne surtout le livre de George Orwell 1984. La presse musicale semble plutôt favorable à Clash. Pourtant, Mark Perry, créateur du premier fanzine punk anglais, estime lui que le punk est mort avec cette signature Clash CBS. Grand fan du groupe, il se sent trahi. Il aurait voulu que le Clash aille jusqu'au bout de son discours et s'autoproduise. Pourtant, sans CBS, Clash n'aurait pu avoir cet impact. Le débat reste ouvert, mais le monde des affaires, auquel appartiennent les maisons de disques, a un tel pouvoir sur les médias. Que la question est quand même vite répondue, comme dirait l'autre. Mais pour l'heure, Clash retourne à la salle de répétition avec à la batterie Terry Shimes qui revient. Il avait quitté le navire avant l'Anarchy Tour fin 76 mais revient en ce début 77, peut-être appâté par la patte du contrat. Bon, voilà, ils sont en répétition. Joe s'approche du jukebox. Il a quelque chose à nous dire, Joe. On l'écoute et puis après on va écouter Uroy.
And now we're going to turn over the controls at the tower here to the great originator of all rap and ting, Mr. Uroy. Let it roll.
Stand up, bustin' and fighting. Why not get together and live in one love and one unity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be lying to the devil when I play with songs called a rebel, rebel, rebel. Says I'm a living man and I got a lot of work to do.
Said I'm a living man. Oh, 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 oh. I've got work to do.
Wow, baby, music, come on, rock it with me then,
oh. If you're not,
I'm gonna rock it all over, baby. Baby, you can step it all over. Capture, you know.
So
make it up, capture. You're different every week, but you go hear my winners. He's on rock, he's on rebound. Yeah, baby, come on, move it on over.
So
mean that you got to get me stepping, little baby, keep me moving. Got to be on the move, hear me tell you, people, people. Rebel style, I run away, child, I beg you, stop your running wild.
See in the morning sun, on the hillside.
Nothing in this world they could I never, never, never do. I'm starting out to drift, I'm a little higher, higher, baby, let me tell you, say, say. Well, I've got a lot of work to do now, and I'll leave along the way.
I've got work to do.
So come on over, baby, make you work it on round there.
If you're not,
so ride on, baby, baby, round on, round on, round on, round on there.
Wow!
See, so make you rock and come over.
I'm
so ribble in the morning, around.
Jah Jah works to perform each and every day, but along the way, as I will tell you. Got to be on the movement till you Rasta pick me. Well then, yes, I'll make you rock and go over. Wow. Yes, as long as you make it moving on over. But I mean that you gotta get me stepping, them little people get me moving. Got to be on the movement till you judge our children. Say, don't baby, make you rock and come over. Till ya. It's as long as it's gonna make you rock it on over.
Fabuleux Uroy, I'm a rebel. Alors, à partir du 10 février 1977, The Clash entre en studio pour 3 séances de 4 jours. Malgré les quelques expériences d'enregistrement qu'ils ont déjà réalisées, le studio reste un monde encore étrange pour eux, nouveau en tout cas, avec la crainte que l'on dénature leur travail. Pourtant, Clash ne met pas le studio à feu et à sang et Mick Jones se passionne sur les méthodes d'enregistrement et de mixage. Le disque sort le 8 avril 1977, très bien reçu par la presse musicale avec notamment ce « Si vous n'aimez pas le Clash, c'est que vous n'aimez pas le rock ». L'album atteint la 12e place dans les charts anglais, excellent score qui surprend le staff CBS. Bien merde, on a signé un groupe punk comme tout le monde, au cas où, et voilà qu'il cartonne en plus. Par contre, la filiale américaine refuse de sortir le disque, pas assez commercial. Ce qui fera que cet album, The Clash, sera la plus grosse vente de disques import aux USA. Pour la petite histoire, pareil en France. The Clash, Hate and War. The Clash avec un événement majeur pour The Clash, l'arrivée de Nicky Topper et Don à la batterie. The Clash a enfin trouvé son batteur. Nicky et Don vient de Douvres. Il se passionne pour la batterie, il donne un premier concert à 14 ans. Son credo, c'est plutôt la soul à Nicky, hein, qui va rapidement devenir Topper au sein des Clash. Il a joué avec Mick dans les London SS. Il vient de faire une tournée des bases US en Allemagne avec le groupe The G.I.s. Et non pas les Temptations, comme il aime me le raconter. Nick Topper vient de s'installer à Londres avec sa femme. Ils viennent juste de se marier. Et en fait, elle fait une drôle de tête quand Topper est rentré avec les cheveux courts et colorés et avec des habits bizarres. Je suis pris dans le groupe, lui dit-il. Elle avait compris. Clash, Garageland avec leur tout nouveau batteur.
New boots. Someone just asked me if the group would wear suits. Wear a garage band. We come from garage land.
Garageland, extrait du premier album de The Clash. The Clash, donc là, c'est pas encore Topper à la batterie. Hein. Sur le premier album, c'est toujours Terry Shams qui est à la batterie. Petite histoire sur ce GarageBand, en fait, cette chanson GarageBand. Un journaliste, une des premières critiques du Clash a été voilà un groupe de garage qui devrait rester dans son garage et laisser le moteur de la voiture tourner. Donc pas très sympa. Par contre, les Clash, voilà, ça les a piqués au vif et ils ont écrit cette chanson en disant effectivement, on est bien un groupe de garage. Donc le premier album de The Clash est plutôt bien reçu. Par contre, le single White Riot passe très peu en radio. Clash répond au tac en enregistrant Capital Radio, pamphlet anti-radio establishment qui sera distribué gratuitement avec une interview en flexi-disc dans le journal de New Musical Express le 9 avril. The Clash, Capital Radio. Le Clash se défend. Alors que l'album est plutôt bien reçu dans la presse, le White Riot Tour, la première tournée anglaise et conséquente du groupe, une trentaine de dates, est montée. Accompagné, alors pour quelques dates, accompagné des Buzzcocks, des Slits, dont la guitariste Viv Albertine et Mick Jones vivent une idylle passionnée, Subway Sex et The Jam. The Jam, ils sortent leur premier album chez Polydor le 20 mai 1977. Bernie Rhodes, le manager, et le Clash ont à peu près ont un peu pris la place de Malcolm McLaren et des Sex Pistols en matière d'étendard punk. Les annulations de concerts en moins. L'idée de fédérer la scène punk et d'en faire une expérience solidaire est bien présente, mais restera un mirage. Déjà, les Jam quittent la tournée à la 9e date au Rainbow Theatre de Londres, première grande salle à accueillir un concert punk le 9 mai 1977. La tournée sera une réussite pour Clash et son mythe, mais aussi une perte financière. Mais les Jam sortent un très bon album en 1977 et vont devenir un groupe culte. The Jam, I Change My Address. Baby, baby, baby. Très très bon premier album des Jam qui sort donc en mai 1977, un album qui s'appelle In The City. Mais revenons à nos Clash. Autre chimère, autre envie du Clash, cette idée géniale de rapprocher les scènes punk et reggae. Les problèmes des punks et des rastas se rejoignent. Les événements de Notting Hill auxquels Joe a participé a éveillé chez lui ce désir de front commun. Le reggae, le ska, Paul a grandi avec et c'est aussi la musique qui sort du jukebox du local de répétition lors des pauses. Si la reprise du morceau de Mervyn Jr. est une évidence pour eux, sa place sur le disque l'est moins au départ. Mais vu la durée des titres, le disque est un petit peu court, donc on rajoute Police and Thieves sur ce premier album du Clash, ce fabuleux Police and Thieves, fabuleuse reprise de Mervyn Jr., un titre qui va tourner partout en 1976, qui va accrocher l'oreille des Clash et dont ils vont ressortir une version un an plus tard. Police and Thieves de Clash.
Peacemaker, turn war officer. in the street.
Oh yeah,
scaring the nation with their guns and ammunition. Police at the ease in the street.
Oh yeah,
fighting the nation with their guns and ammunition. Genocide to revelation. The next generation. Hear me.
Voilà, les punks qui jouent du reggae, il fallait oser le faire et Clash l'a fait avec brio. Alors au départ, Joe était un petit peu réticent car Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols, lui avait dit que c'était une exploitation culturelle pour un blanc de jouer du reggae. Ce qui éventuellement s'entend, mais que je trouve complètement con. La musique est un langage universel, c'est un partage, un élément grâce auquel on peut se retrouver justement toutes couleurs confondues. Moi personnellement, je joue du reggae et du ska depuis une quarantaine d'années et je suis blanc, et la majorité des rastas que j'ai rencontrés, et j'en ai rencontré un paquet, m'ont plutôt encouragé dans ma démarche. En tout cas, cette bouteille à la mer venant de Clash ne va pas rester lettre morte. Elle va bien sûr inspirer des milliers de musiciens à travers la planète, bonjour à Police, mais aussi elle va tomber dans les oreilles de Bob Marley et de Lee Perry, producteur de l'original Police and Thieves. Bob Marley comprend l'intention du message et répond tout de suite en écrivant la chanson Punky Reggae Party qui sera la face B du 45 tours Jamming. Et oui, la musique a cette magie de réunir les gens. Bob Marley, Punky Reggae Party 1977. New Wave, New Brave. On peut dire que Bob Marley adoube le punk avec cette chanson Punky Reggae Party. Il faut dire que pour les Rastas, la musique est vraiment un combat et chaque Rasta se considère un petit peu comme un soldat de la paix. Je me souviens d'une discussion avec Natty Fred, un guitariste jamaïcain et Rasta, et on parlait de nos problèmes à l'époque, c'était il y a maintenant vraiment quelques années. Il y avait un des musiciens du groupe dans lequel je joue qui était à l'armée à l'époque, l'armée était obligatoire, et Natty Fred, ça lui était impossible, il comprenait pas qu'on puisse être faire son service militaire et en même temps dans un groupe de reggae, c'était pour lui impossible. Fight, fight, les combattants de la paix. Alors 1977, revenons à nos clashs, va voir aussi les premières frictions de clash avec son management, Ben Rhodes, et sa maison de disques CBS. Bernie, tout d'abord, qui demande un contrôle complet sur The Clash, déclenchant l'hilarité de Paul Simonon et Joe Strummer. Les choses ont changé de manière spectaculaire en une année. Clash a sorti single et album, il est devenu un des deux fleurons du punk rock, le Clash s'est affirmé en tant que groupe, mais aussi en tant qu'individu. Et non, Bernie Rhodes n'aura pas le contrôle complet sur tout. Il aura sa revanche quelques années plus tard. Nous le verrons en temps voulu. Autre accro, cette fois avec CBS, leur maison de disques, qui sort le single Remote Control le 13 mai 1977 sans leur autorisation et alors qu'ils sont au cœur de leur longue tournée White Riot en Angleterre. De plus, il y a en face B une version live de London's Burning, alors que la politique du groupe est de sortir des titres inédits en face B des singles issus des albums. La réponse va se faire par l'intermédiaire du fabuleux single Complete Control, titre inédit qui sort le 21 septembre 1977 avec en face B un autre inédit, City of the Dead. Mais ça, c'est aussi la magie du clash et du rock, la riposte en chanson. Avec ce single, Clash affirme son style, il devient plus puissant, direct et accroche de manière magistrale avec la dernière partie de la chanson et son refrain fédérateur. Control, complete control, C-O-N control. Contrôle, le contrôle complet, contrôle de con. The Clash, complete control, 1977.
I'm gonna go.
Complete Control de Clash. Si 1977 est bien l'année des Sex Pistols et du punk, ces derniers vont être en quelque sorte victimes de leur succès. En effet, si le groupe était une véritable bombe dès le départ, son succès repose sur la provocation. On a vu le dérapage dans l'émission Grundy Show de novembre 1976 où les Pistols insultent les présentateurs. Le scandale qui en découle va être une publicité énorme en Angleterre pour les Sex Pistols et le punk, mais va aussi déboucher sur l'annulation de quasiment toute la tournée des Sex Pistols. Leur maison de disque EMI va mettre fin au contrat et retirer le 45 tours de la vente. Les Sex Pistols re-signent rapidement avec AR et un nouveau scandale et des Sex Pistols à nouveau sans maison de disque. Virgin va finalement récupérer le bébé. Donc début 77, les Sex Pistols n'ont plus de maison de disque et sont quasiment interdits de concert. Ils vont de plus se séparer du bassiste Glenn Matlock, un des principaux compositeurs, au profit d'un copain de Johnny Rotten, Sid Vicious, qui ne sait pas jouer de la basse mais qui a un look d'enfer. Bon, ça c'est bien pour McLaren, un mec qui a un look d'enfer, ça va donner un peu plus de sous à sa machine à scandale. Pour la musique, c'est moins bien. En même temps, McLaren programme la sortie du prochain single God Save the Queen le jour du jubilé de la reine. Le jour dit, il installe les Sex Pistols pour un concert sur un bateau sur la Tamise et devant Westminster, le palais de Westminster. Le bateau rempli de fans et de journalistes est arraisonné par la police. Ça fait un nouveau scandale et de scandale en scandale, les Sex Pistols s'enfoncent dans une situation inextricable. God Save the Queen va faire un carton, mais sera le morceau le plus censuré sur les ondes britanniques. Le chanteur Johnny Rotten est attaqué à coups de rasoir en pleine rue et bientôt le batteur Paul Cook est lui aussi attaqué à coups de bouteille. Les Sex Pistols vont pourtant sortir un fabuleux album Nevermind the Bollocks, Harry the Sex Pistols en 1977, mais il contient des morceaux déjà sortis en single. Tous les scandales semblent avoir coupé les ailes créatrices du groupe qui joue sous de faux noms. Parallèlement, The Clash au même moment étoffe son répertoire et son auditoire à travers des disques et des concerts, deux tournées conséquentes anglaises en 77 et une tournée européenne. Près de 70 concerts en 77 pour The Clash. Fin 77, alors que la scène punk en pleine explosion commence déjà à se désagréger, The Clash trace son chemin. Les quatre cavaliers de l'apocalypse chevauchent dans le soleil couchant de 1977 vers de vastes prairies, des territoires inconnus. Ça, c'est la suite, on le verra dans le prochain épisode. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. On se quitte avec les Sex Pistols, God Save the Queen. See ya!